Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Ou dans d'autres régions pour le travail ou les études. Et combien, quel est le pourcentage de ces gens-là qui ne reviendront jamais parce qu'ils vont avoir découvert autre chose, des nouveaux amis, une nouvelle gang. Tu sais, comment il y en a qui sont, tu sais, sont partis de, du Saguenay puis ils ont tout collé site à Québec. Vous êtes trop, OK?
Trop. Tu veux t'aller leur dire actuellement?
Il n'y a pas de quota là-dessus.
Moi, je pense que les quotas douane. D'immigration, ça devrait être entre le Saguenay et Québec.
Une douane à la Terrière, c'est bon ça.
Oui.
Ça prendrait le bureau à l'État.
C'est sûr que lundi prochain, il va nous manquer des employés. Non. On en a plusieurs ici qui passeraient pour les douanes. Là.
Il resterait des muffins, par exemple.
Hey, tu veux rendre le monde meilleur, là, toi? On va commencer lundi.
Excusez, monsieur, on a atteint le quota. Ça va être la semaine prochaine, peut-être.
Ça va être des funérailles en état d'ébriété que tu vas avoir, là.
Fait que je reviens aux assurances-vie. Aux assurances-vie, je pense que j'ai les moyens de m'enterrer. Pas tout seul, là.
C'est ça, pareil.
As-tu besoin d'aide?
Fait que si j'ai les moyens de m'enterrer, le reste, ben...
Faut que ton calcul soit là. T'as-tu l'argent pour couvrir ce que tu vas coûter après être mort? C'est ça,
c'est
l'affaire.
Ça.
Parce
que... Puis est-ce que je veux vraiment leur léguer énormément d'argent? Ou
ils n'en auront
pas?
Oui.
Eux autres, ils voudraient bien, mais ils s'aperçoivent bien que ça n'arrivera pas, là. Fait que tu voyages pas mal, hein, qu'ils m'ont dit hier soir.
Ah, ouais.
On s'est fait un super fondu toutes les trois hier.
Ils savent compter.
Fait que hey, j'ai dû dire... au moins 20 fois durant le soir. Puis, à part ça, rien. Ben, j'avais interdit le cellulaire aussi, hier. J'ai eu ça, avoir des règles, puis interdire. Je dis, il n'y aura pas de cellulaire au super soir.
C'est un peu une question plate, à part ça. T'sais, se faire poser à part ça. C'est pas c'est plate de se faire poser cette question-là, non?
Ouais, mais, OK, mais dis-le, à revire ça de bord.
C'est mettons, plate à poser.
Mon grand flambeau, là. Puis, là, t'as-tu une blonde? Tu sais, il va me dire pas de tes affaires. Ouais. Fait que, à job, comment ça va? Bon, ça va.
Ça va.
Tu veux des détails.
Là, j'ai dit, toi, Nathan, j'ai dit, j'aimerais ça que tu commences à travailler le plus vite possible. J'aimerais ça, on a un projet de vacances, toute la gang ensemble, les six ensemble cet été. Ils ont jamais bien pris de vacances l'été. C'est le seul bout où ils travaillaient quand ils étaient à l'école. Puis là, j'ai dit, ben, patente tes affaires. Tu devrais commencer même avant la fin de tes études. Bon, ben, le temps.
Non,
ben,
ah, j'essayais,
j'essayais d'avoir des discussions avec les deux flambous. Puis c'est ça. Faut être une chance que je pense qu'être pas pire pour poser des questions. Parce que sinon, on aurait mis le son de l'émission à télé. Là, parce que c'était pas... non, mais c'était bien le fun. Là, c'était bien correct. Fait que c'est ça. Donc, j'ai des nouveaux objectifs de vie.
Mais oui.
Je veux changer le monde. Non, je veux pas changer le monde. Je veux aider à améliorer le monde.
Oui.
Dans le but d'obtenir des funérailles d'État.
Décourage-toi pas, là. Ça fait rien que trois jours, là.
Oui.
Faut que tu persévères, là.
OK.
On va le trouver.
Qui va en avoir des funérailles d'État? Ils sont pas morts, là.
Justin Trudeau.
Ben là, lui, je le sais pas.
Tu me demandes qui?
Je pense qu'il est
premier ministre. OK, ouais, mais c'est parce que, moi, mais, t'es trop dans le présent, là. Va dans le passé, il y en a plein qui sont pas morts, là. Okay. Je vais t'en nommer un, que moi je pense que c'est sûr.
Vas-y.
C'est Jean Chrétien.
Oui.
Tu sais, parce que Jean Chrétien a quand même été, il a été premier ministre pendant combien de temps, donc,
10 ans,
en plus que ça.
93
il était,
à 2000.
Non seulement premier ministre, mais il était haut placé, très, très souvent, là.
Tu veux dire au G7, mettons, à travers le monde?
Dans le gouvernement.
Dans le gouvernement, ouais, OK.
C'est pas un peu acquis pour un ancien premier ministre, de toute façon, d'avoir des funérailles d'État?
Je pense pas. OK. Je pense pas. Tu sais, la madame qui a...
Kim Campbell,
elle, je penserais pas.
Ouais, non, c'est vrai.
Avec tout respect, Paul Martin, je crois pas non plus.
Non, Joe Clark.
Mais Paul Martin était ministre des Finances pendant quand même tout le long de Jean Chrétien, plus premier ministre. Mais je comprends.
Juste ministre, je pense pas que... Je sais pas, parce que...
M. Layton n'a pas eu de funérailles d'État.
Non. Non, il n'a pas été. Tu sais, parce que je pense que vraiment, c'est... Faut être... Avoir été premier ministre, puis plus que ça, faut avoir eu un impact. J'ai l'impression que l'impact, puis je sais pas qui décide ça, puis tant mieux s'ils gardent ça.
Ça a changé.
C'est Mauro Biello pour l'impact.
C'est CF Montréal maintenant, ça a changé.
C'est ça. Très bon. 93 à 2003, Jean Chrétien.
93 à 2000.
Ça, c'est comme PM.
Oui, okay, oui, comme PM. Oui, 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 ben oui. C'est une, c'est une carrière de vie. Ouais.
Mais c'est vraiment, vraiment à titre de premier ministre, je pense. Que parce que moi, des funérailles d'État, comme on a vu samedi, il y en avait eu avant, c'était Pierre-Éliott Trudeau, ouais. Justin l'a rappelé. Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Est-ce qu'il y a eu des funérailles d'État, par exemple, dans l'Ouest canadien d'un premier ministre dont je me souviens pas? Non, parce qu'on en les a quasiment toutes nommées. Puis c'est sûr qu'il n'est pas mort tant que ça.
Plus récemment, ici, il y a eu Maurice Richard, puis Jean Béliveau, puis Guy Lafleur.
OK. Ça, c'était des funérailles d'État, mais au niveau provincial.
Au Québec, oui. Ouais.
C'est ça.
Toi, tu veux te concentrer sur le Canada?
Ben, un peu les deux.
Jack Clayton les a eu, les funérailles d'État, en 2011.
Je me souvenais pas.
Ah,
je me souvenais pas, mais ouais.
OK. Tu veux, c'était moins grandiose, probablement.
Oui, mais il y a quand même eu un impact, tu disais, l'impact.
Ouais.
Jim Flaherty, Ed Broadbent, des gens qui ont été, ministres aussi.
Non. OK. Pas de funérailles d'État pour ces gens-là.
Mais ils en ont eu. Ils sont-tu morts?
Oui, oui,
il y en a eu. Broadbent est mort récemment, il n'y a pas eu de funérailles d'État.
Ben,
c'est Broadbent?
C'est écrit sur le site du gouvernement canadien que oui. Ouais.
OK. Mais c'est ça, mais à un autre niveau, j'imagine.
Oui, c'est ça, là.
J'ai l'impression que, tu sais, c'était pas RDI en continu, puis peut-être que là,
ça a duré une semaine.
Ouais. Peut-être qu'on était trop centré. Hey, les drapeaux ont été en berne 3 semaines.
Ouais.
3 semaines de temps, les drapeaux en berne. Depuis son décès. Fait que, c'était quand même majeur.
Il y en a plus qu'on pense, des funérailles d'État.
Tu sais, Jean Charest, il va en mériter. Il va se les payer, par exemple.
Roméo Leblanc en a eu, Pierre-Éliott Trudeau en a eu.
Ouais, ça permet de commémorer les gouverneurs généraux, les premiers ministres actuels et les anciens, les membres du cabinet. Et c'est aussi possible que le premier ministre accorde l'honneur de funérailles d'État des Canadiens imminents s'il le juge opportun.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des athlètes là, qui vont être dans ce...
Ben, au Canada, là, on n'en a pas bien, par exemple. Il y en a 4 au total dans l'histoire. Je ne sais pas si tu as la même liste que moi, Karen. Thomas Darcy McGee en 1868, Jack Layton, Jim Flaherty puis Ed Broadbent, je serais dans les 4 qui étaient pas anciens premiers ministres ou ministres précisément.
OK. Ben il a été ministre non, Ed Broadbent n'a pas été ministre, uniquement politicien.
Ministre des Finances.
Ouais, Flaherty ça c'est sûr. Ouais.
Mais honnêtement, en tout respect avec que je trouve ça beaucoup des funérailles d'État pour ces gens-là.
Ouais, mais comme je dis, si ils ont mis moins de, tu sais, il y a moins de personnalités qui se sont déplacées, ampleur médiatique.
Ça c'est clair.
Tu sais, parce qu'est-ce que c'est que des funérailles d'État, c'est que de prêter des petits soldats rouges, puis tu sais, est-ce que ça veut dire qu'ils assument les frais aussi là?
Est-ce qu'il y a quelque chose au nom de M. Mulroney? Il y a le pavillon à l'Université Laval qui a été inauguré récemment.
Oui.
Je me demande si... Je pense qu'à Baie-Comeau, il y a un buste de Brian Mulroney devant l'hôtel de ville.
C'est fort possible parce que le maire a parlé, puis le maire était dans les invités. Oui, le maire de Baie-Comeau était dans les invités. Fait que j'imagine qu'on va bien faire quelque chose.
Puis à l'échelle provinciale, le funérailles d'État, c'est strictement les premiers ministres puis deux anciens ministres ou députés en service. Ensuite, t'as les funérailles nationales qui sont une petite nuance. Puis là, on a Guy Lafleur récemment, et etc. Là. Mais sinon, le dernier, c'est Bernard Landry en 2018, côté funérailles d'État au Québec.
Bon. Puis il y a Régis Labeaume qui exige 2 funérailles d'État, lui. Ça, c'est 2 jours.
Une au Saguenay.
Il n'est pas mort. Hein?
Une
au Saguenay. Puis une au provincial.
Puis lire à l'église, ça vient où? Ça, c'est pendant tes funérailles que tu veux faire ça?
Ben, je sais pas, j'ai pas préparé ça.
Non.
Parce que moi, j'ai fait ça, lire à l'église, là, souvent. Ça
va
de genre 7 à 11 ans. Là.
OK. Moi aussi, honnêtement, j'ai eu à lire à l'église à des funérailles des gens que j'ai qui est des gens dans ma famille par exemple,
oui.
On m'a souvent demandé d'aller lire. Ah, oui, c'est dur, puis moi lire la parole de Dieu là à cette heure, c'est non.
Ouais,
fait que j'ai bien de la misère avec tout ce qui est le côté religieux, puis c'est bien correct, puis tu sais j'entendais Sylvain Bouchard hier, il ouvrait son émission avec ça, puis il racontait comment il avait trouvé ça aussi comme un peu tout le monde, c'est impressionnant, puis quand il dit aussi qu'il a été ému, qu'il a même versé une larme quand la petite fille à Brian Mulroney est venue pour chanter, puis
Elisabeth.
Elle pleurait trop. C'était très, très, très touchant. Là. C'était dur de ne pas être émotif quand ce segment-là est arrivé. Mais oui,
c'est
c'était
la
grand.
C'est de Caroline, hein, Elisabeth?
Oui, c'est parce que Caroline étant la plus vieille, c'est elle qui avait les plus grands enfants. Et c'était impressionnant de voir ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'un coup mort, vous ferez ce que vous voulez, je serai plus là. Fait que j'exige rien, tu sais. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, c'était quand même le fun d'entendre les mémoires des gens. Puis tu sais, là, c'était à l'échelle d'une personnalité très, 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 très connue, très, très forte. Mais à chacun de nos parents, par exemple, on aurait pu avoir ce genre de lecture-là. Pensez à ça si on prenait le temps. Puis oubliez vraiment le côté religieux, là. Moi, je suis capable de le mettre de côté. Vous voulez l'additionner, mettez-le. Mais j'ai pas de souvenir que les funérailles d'un gars qui a travaillé à la shop toute sa vie, mettons, mais qui a 5-6 chums avec qui il jouait aux cartes, avec qui il jouait aux quilles, avec qui il travaillait, avec qui il avait un projet à l'extérieur, un beau-frère avec qui il s'entendait bien, comment ce serait facile de trouver 4 personnes dans des sphères différentes, un de ses enfants, qui viennent lire un éloge.
Moi, j'ai lu à mon père. J'ai lu à mon père.
Mais t'as lu quelque chose que t'avais écrit toi-même?
Oui.
OK. Fait que...
T'es fier de ça. Puis j'avais mis une petite touche d'humour parce que mon père, il était toujours pince sans rire, là, mais j'ai trouvé ça dur, pareil.
Ben, ça, c'est sûr. C'est certain. Difficile. Moi, je dis pas que moi, ça, j'aurais très beaucoup de difficultés à faire ça. Par contre, c'est cette ambiance-là qu'on voyait samedi par la télévision, que je disais, crime, ça serait le fun qu'à chaque funéraille, que ce soit dans un salon funéraire directement, parce que on va de
ça
moins
se fait
en moins à l'église.
De plus en plus dans un salon funéraire.
C'est ça. Oui, oui, c'est des belles salles. Il y a des micros. Tout est bien fait. Fait que, il y a quelqu'un qui présente, qui fait commencer la cérémonie. Il invite donc tour à tour les gens qui veulent venir dire un petit mot. Puis, parce qu'à mes faux funérailles, mes funérailles de 40 ans, c'est ma belle-sœur de l'époque avait écrit un éloge que j'ai encore par écrit, qui était à pisser à terre, là. Maudit que c'était drôle. Parce qu'elle était contente que je sois mort. C'était drôle en temps. Après ça, c'est qui les autres qui avaient fait des éloges funèbres? Donc, il me semble que Brun en avait fait, c'était aussi très, 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 très drôle.
Personne de triste, là.
Il n'y avait personne de triste. Non, personne de triste. Non. Il restait plus une goutte d'alcool quand on est parti du club de golf. Plus une goutte. Mais puis même pas dans la cabane, dans le milieu du terrain, là.
Ça fond, ça.
Fait que les tes funérailles d'État, d'ébriété.
Oui, c'était plutôt ça. C'était plutôt ça. c'est surtout quand on est sorti pour ramasser à la fin, là, puis qu'il y avait un individu qui était couché sur le green du 9 qui était en train de remettre ses culottes. C'était pas parfait. Fait que,
il avait trouvé le trou.
Ouais. Oh boy.
Oh boy, hein.
Hey, il y a une fille qui s'est réveillée au lendemain de ça, là. Puis elle a appelé une amie proche de nous autres, là. Elle savait pas où elle était. Mm. Elle savait pas elle était partie avec un gars. Elle le connaissait pas. Puis elle s'est endormie dans le char en y allant, puis elle s'est réveillée, puis elle était dans le bois. Puis elle savait pas était où. Elle savait pas dans quelle ville elle était. Elle savait pas était où. Pantoute.
Mais dans le bois, laissé seul, attention.
Non, dans le bois, là, parce que le gars, sa maison est dans le bois.
OK.
Tu sais, il n'y a pas de voisin immédiat. C'était assez spécial, là. Mm. Fait que. Voilà. On a fait le tour de l'actualité à notre vision. Ça sera pas tout dans le journal demain, là.
Ben, les funérailles d'État, si ça fonctionne, ça va être dans le journal un jour.
Un jour, on verra.
Ça a commencé avec un pont qui s'est écroulé, puis ça a fini avec un gars dans le bois. Une fille dans le bois, ça veut pas
dire. Dans le bois. Je regarde, là, ça va être l'heure de la circulation. J'étais un peu découragé, mais je regardais la circulation de Baltimore, mais là, c'est Québec qui vient de réapparaître. La capitale est rouge, la 20 est rouge. Code le rouge, pont est rouge, oh boy, ça semble difficile à 8h12. Tous les détails dans quelques secondes, bougez pas.
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort au pied, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
As-tu deux minutes du bon le matin? As-tu deux minutes?
Ben, rappelons ce qui s'est passé d'abord du côté de Baltimore ce matin. C'est un pont qui est tombé à la suite d'un contact qui a été percuté par un navire, le plus précisément. Donc, très tôt ce matin. En fait, c'est au cours de la nuit, aux alentours de 1h30, là, qu'on nous dit
1h28,
que...
1h28, précisément, où le navire... qui, là, selon les premiers rapports, qui était vraiment en perdition, dans le sens où panne moteur ou panne de guidage... a fait que lentement il s'est dirigé, mais c'est impossible à arrêter, hein, un navire en mouvement. Puis on en voit des fois sur différents réseaux sociaux là qui sont des immenses navires, donc qui se dirigeaient vers la colonne et donc il a pas pu s'arrêter, frappant la colonne. C'est quand même très solide, les ponts en acier comme ça, mais aussitôt qu'il y a une colonne qui plie, hey, c'est l'effondrement d'un pont en Italie que j'ai écouté récemment, là, un petit documentaire. Et aussitôt qu'il y a une colonne qui plie, son pourcentage de support est réparti sur les autres colonnes qui, automatiquement, ne deviennent plus assez solides pour supporter ce qui reste. Et là, c'est pour ça que, graduellement, il s'est parti comme un château de cartes. Ça me fait penser un peu au verglas qu'on avait connu Il y a un pylône qui est tombé et en tombant a attiré tous les autres pylônes un à un à tomber.
C'est vraiment une cascade, t'as raison, cascade. C'est bien décrit, très bien décrit.
Fait que c'est ce qui s'est produit donc du côté de Baltimore cette nuit. C'est une route de contournement. C'est la partie la plus large autour de Baltimore qui traverse l'eau. Là, on est vraiment à l'entrée en mer et tous les bateaux du port de Baltimore. Puis, êtes-vous déjà allé à Baltimore?
Oui.
Non.
C'est beau en tabarouette. Le vieux port, là, il y a quand même beaucoup de navires de genre Cartier, là. Des navires à voile, à triple mât. Fait que il y a des c'est vraiment un bel endroit. Il y a beaucoup de restos également. Ça sent pas tout le temps le parfum, mais tu sais, parce qu'il y a de l'eau dans un port comme ça, il y a de l'eau stagnante, là. Des fois, c'est un petit peu particulier.
Fait que Baltimore, ça pue.
Oui, sérieusement.
Il a pas dit ça, il a dit que ça sentait pas le parfum.
Oui. Fait que voilà, pour ce qui est du nombre de blessés et tout ça, ben on est
C'est en développement, hein, parce que c'est ça, on a eu 20, on a eu 7, on essaie d'avoir des infos, là, mais t'as raison. On sait pas trop pour l'instant précisément ce que c'est.
Exact. Ce qui est impressionnant dans l'image quand tu vois tomber le pont, c'est que si maintenant vous êtes en face du pont, là, imaginez-vous en face d'un pont, un peu comme le pont La Violette à Trois-Rivières, pour vous donner une image si vous l'avez pas encore vu. Vous regardez la section où le bateau frappe. Fait que là, vous avez la section qui est complètement du côté gauche, si vous êtes en face, qui s'effondre. Ça affaiblit la partie centrale qui, elle, s'effondre par le milieu en premier. Elle s'effondre complètement. Et quand elle est complètement effondrée, la partie du centre, puisque là, il y a un autre pilier qui est complètement à droite.
Oui, il reste une partie de chaque côté.
Mais la partie de droite en acier, mais là, elle a plus rien qui fait un contrepoids du côté central. Fait qu'elle tombe, elle bascule un peu comme une balançoire, là, qui fait que, elle tombe dans l'eau parce que il n'y a pas de contrepoids pour la tenir à sa place. Là, c'est une structure qui est tellement tout attaché ensemble et qui se tient.
Il y a quand même deux personnes qui ont été rescapées.
Oui.
Quand même, dont une blessée grave. On verra pour les autres, parce que le bateau, là, actuellement, bon, encore là, les gens qui n'ont pas vu les images, le bateau a dépassé la colonne qui l'a percuté et il a reçu le pont. Donc, sur le devant du bateau, le pont est plié sur l'avant du bateau à travers les conteneurs. Et le pont bloque carrément la totalité du passage ferroviaire pour sortir du pont de du port de Baltimore. Alors, quel impact ça aura également sur le transport maritime de ce secteur-là? C'est assez particulier.
On est à l'étape des représentations sur la peine dans le cas du docteur Idelbert Ruard qui a agressé sexuellement des clients de la maison thérapie qu'il dirigeait. Il a 94 ans et lui, ce qu'il veut, c'est une peine de moins de 2 ans à purger dans la collectivité. Maintenant, je vous rappelle qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 5 femmes qui étaient en thérapie à la Villa Ignacia entre 2017 et 2019. Et du côté du DPCP, on met l'accent sur le fait qu'il a été en situation d'autorité auprès de gens vulnérables qui venaient chercher de l'aide pour traiter leurs problèmes de dépendance. Alors, voilà pourquoi on demande 3 ans de prison du côté du DPCP.
Malgré son âge et son état de santé, il doit faire de la prison. C'est important. En tout cas, je trouve ça important que ce bonhomme-là fasse de la prison pour les gestes et les actes qu'il a commis.
Et la peine sera dévoilée en juillet prochain. Et au sujet du vélo partage ici à Québec, la prochaine saison, la 4e saison d'Avélo, débutera le 1er mai prochain. 115 stations, 1300 vélos au total et davantage de dessertes en termes d'étendue. Là, on est un peu partout jusqu'à la pointe Sainte-Foy, ou du moins jusqu'à l'aréna de Sainte-Foy, disons. Et il y en a dans le secteur Charlebourg, Beauport également.
Loretteville,
c'est vrai, 3 stations qui ont été ajoutées de votre côté. Et sur la promenade Samuel de Champlain également, quelques stations qui ont été ajoutées.
Je vérifie, là, puis... appelle notre invité, s'il vous plaît. Je vérifie, puis il n'y a vraiment aucune autre sortie pour les bateaux du port de Baltimore. Là. C'est vraiment la travée qui bloque tout l'accès au port et le port commercial qui est immense. Je regarde tous les quais.
Donc, ça va prendre à court terme et à moyen terme ailleurs que... Il va falloir qu'on aille ailleurs que là. À Baltimore.
Non, d'après moi, c'est ce qui va presser, là, après, mettons...
Il y en a sûrement qui sont là, il va falloir les sortir de là.
Ouais, c'est ça. Là, un coup que les victimes sont sorties de là, là, mettons que il va falloir prendre des grues, puis je crois prendre une des structures du pont, puis la soulever pour la tasser, pour libérer une voie maritime. C'est ça qui va
continuer. Ouais.
Il va falloir qu'il fasse ça rapidement, c'est sûr. Karen?
Non, c'est beau. J'essaie d'attirer l'attention de Pierre.
Oui, vas-y.
Ben oui. Le Canadien est à Denver, au Colorado, ce soir pour compléter une séquence de 5 matchs sur la route. C'est au Ball Arena que ça débute, 21h à notre heure. 20h30, émission d'avant-match avec Martin et Danny le long du réseau Cogeco. Le Canadien qui a remporté son dernier match à Seattle dimanche va retrouver les services de son entraîneur-chef Martin Saint-Louis derrière le banc. Saint-Louis qui a raté les 4 derniers matchs. Il était au chevet de son fils Mason qui a eu des complications suite à une blessure subie dans un match sportif. Maintenant, Mason a quitté l'hôpital et de retour à la maison. Et Martin Saint-Louis, lui, sera de retour derrière le banc du tricolore. Mais c'est un bon test pour le Canadien. L'Avalanche a gagné ses 9 derniers matchs. Et Colorado bataille pour le premier rang au classement général de la Ligue nationale de hockey.
C'est quoi Ball Arena?
Ball, c'est... je le savais. Puis je vais te le dire tantôt.
OK, c'est pas...
C'est pas dans les finances, ça, Ball.
J'ai aucune idée.
Je le savais.
Il y a de plus en plus de noms, puis c'est ça l'objectif, des fois, de faire parler ou véhiculer le nom.
Belle.
C'est drôle parce qu'il y a quand même des amphithéâtres qui ont eu des noms où les compagnies ont fait faillir. Je pense à l'aréna de Miami Heat.
Ouais.
C'est la... Tu vois, FX.
Ouais.
LFX.
FX.
FX, en tout cas, c'est une compagnie de... C'est de la crypto-monnaie.
Oui.
Ensuite de ça, quand je suis allé au football à Denver, au Colorado, c'était le magasin de sport... Sporting...
Sports Authority.
Sports Authority, c'est ça.
Ils ont fait faillite.
Ils ont fait faillite, puis le stade s'appelait encore comme ça. Oui. Après ça, il me semble qu'il y en a un autre. Je l'oublie, en tout cas, mais... c'est pas Centre Vidéotron. Je me suis...
À part de ça, hier, il y avait 2 matchs Ligue nationale de hockey. Vegas l'emporte 2-1 à Saint-Louis en prolongation, but gagnant de Jonathan Marchessault. Et en sortant, le gardien des Golden Knights, Logan Thompson, a fait un arrêt sur un tir de punition de Buchnevich. Les Kings ont aussi vaincu les Canucks à Vancouver 3-2. Sur la scène locale, le Blizzard du Séminaire Saint-François accède à la demi-finale des séries éliminatoires M18 avec un gain en deuxième période de prolongation hier à Saint-Augustin, 3-2 contre les Forestiers d'Amos. Le grand défenseur Maverick Lamoureux va rater les séries éliminatoires pour les Voltigeurs de Drummondville. Il doit être opéré, le grand Maverick, qui appartient aux Coyotes de l'Arizona de la Ligue nationale de hockey. Et Shohei Ohtani nous a dit hier, « Je n'ai jamais parié sur le baseball ou tout autre sport et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de le faire en mon nom. » Il est sorti 4,5 millions de dollars du compte de Shohei Ohtani dans les dernières semaines. Lui dit s'être fait voler par son interprète qui l'a congédié la semaine dernière.
Bon, tu le vois bien que l'autre, il a une face de croche.
Oui, Ohtani, il a une face douette.
Oui,
c'est ça que je comprends.
Il réagit pas, jamais, t'as dit.
Il n'y a pas d'expression dans le visage.
Dans le visage, certain.
Ça commence jeudi en Amérique du Nord, le baseball.
Oui, moi, je vais être là. J'ai regardé...
Soyez-y, mesdames, messieurs.
J'ai regardé les billets au City Field pour le game de samedi après-midi. Oui. Je n'achète pas tout de suite parce que la température est toujours incertaine.
Incertain, oui.
À ce temps-ci de l'année, s'il pleut, là, être assis au baseball, t'as pas de fun.
Hey, moi, je suis allé aux Red Sox il y a une couple d'années au mois d'avril, fin avril. Ils faisaient frette en jouant le vert. Ils vendent des petites couvertes, là, si tu veux.
Ouais.
À shop, là. C'est 40 piastres, la couverte. Mais
ils sont pas fous.
Mais non, mais c'est pas chaud non plus, là. C'est, oui. pas une de doux.
C'est pas que t'en achètes deux.
C'est pas chaud.
Ça en
prend
deux, oui.
Ben, tu sais, moi, les Red Sox, je les ai où, hein? Tu sais, moi, les Red Sox.
Moi, je les ai à Boston, quoi.
Moi, les Red Sox, les Maple Leafs, et certaines équipes beaucoup, de oui. même.
Fait que toi, t'as le cul à Boston et à Toronto en même temps.
Et nous autres, là, c'était. Après l'attentat du marathon de Boston, moi puis Bob Bissonnette, on part, on s'en va à Boston, puis là, il fait frette. Comme lui dit, là, il fait frette, c'est quasiment pas restable. Puis là, il est hors de... Mais il est hors de question que je m'achète un coat des Red Sox, tu sais. Non,
je vois geler, je vois le vert.
Ouais, non, là, j'ai dit... Non. Et je suis allé où le monstre vert... Tu sais, quand on prend un verre autour, il y a le catfish, est-ce que tu...
C'est le cat...
Cat skin... C'est quoi, non? Le nom du... Bah, c'est...
Big skin pool.
Non.
Continue à parler.
C'est un bar, resto-bar très connu qui est là. Fait que là, je rentre là, puis je vois que les employés ont de la merch, ils sont habillés avec le nom du bar. J'ai dit, en vendez-vous à vos clients? Ils disent, oui, il y a une petite boutique ici dans le fond du magasin. Puis c'est vert. Fait qu'un peu vert irlandais, là. Mm-hmm. J'ai dit ça, c'est parfait, j'aurais pas fret. Puis je vais donc m'acheter un chandail. Puis, fait qu'on avait passé, on est allé 2 games de suite. Puis il a fait fret. Mais à New York, la game est en après-midi. samedi. Fait que ça me donne une chance d'être...
Mais tu vas t'habiller en conséquence.
Oh oui, je vais m'habiller en conséquence, c'est certain, certain, certain. Puis s'il fait pas beau, je jouerai pas au baseball, on va faire d'autres choses. Il y a plein d'activités à faire à l'intérieur.
Ball, Stéphane, c'est une compagnie d'emballage.
OK.
Ouais.
Faut que ce soit international. Quasiment pour commanditer un nom d'aréna, oui, là, oui, c'est quand même particulier. Un degré à
Cask and Flagon. Cask and Flagon.
Tous les Québécois qui sont allés au baseball à Boston sont rentrés là, c'est quasiment certain, certain, certain. Un degré sur Québec, c'est plein soleil ce matin. Il y aura quelques nuages fatigants ici et là cet après-midi, mais rien de plus. Puis profitez-en parce que c'est de la pluie qui va débuter cette nuit, qui va durer mercredi toute la journée. Même jeudi, j'ai des pourcentages qui sont assez élevés de pluie, autour de 50% pour jeudi, là, quand même. Et vendredi, ben là, on arrive avec un dégagement, puis on devrait s'en tirer. Mais les températures élevées, là, 6-7 degrés au maximum le jour sur Québec.
As-tu deux minutes?
Présenté par les orthésistes du Pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du Pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Ben, c'est ça.
Il y a des gens, quelqu'un qui m'écrivait et il me disait, ouais, tu fais beaucoup référence au Gordie Howe Bridge que tu as visité à Détroit la fin de semaine passée. Oui, parce que c'est impressionnant, parce que c'est une fabrication québécoise de Québec. Toutes les pièces d'acier ont été faites ici à Québec. Et parce que l'ingénierie aussi est québécoise, c'est ça qui est impressionnant. Puis, puis j'ai pas publié beaucoup de photos. Comprendrez que l'accès privilégié qu'on a eu pour visiter les abords du pont était particulier. Mais le plus drôle, c'est de voir la face du gars quand on est arrivé. Puis il dit, mais là, vous pourrez pas débarquer du pick-up.
Il n'y a pas de caisse.
Des casques, oui, on avait pensé aux casques, mais ça prend 4 affaires pour aller sur un chantier. Vous savez, les niveaux de sécurité sont rendus, outre la sécurité, puis ils voulaient s'assurer qu'on n'était pas russe. C'était aussi, ça je vous dis, le gars, j'en venais pas qu'il nous pose cette question-là. Ça prenait des bottes à cap d'acier. Ou des souliers à cap d'acier. Ouais.
Donc, ils demandent, êtes-vous russe? Ils demandent ça de même.
Ouais.
Peut-être avoir la quantité.
Vous n'avez pas d'origine russe, tu sais, genre, c'est assez spécial. Okay.
Parfait.
Mais le gars, t'as un drôle de moineau.
Bon, oui.
Donc, bottes à cap. Chapeau de sécurité, veste fluo, là, une veste réfléchissante et des lunettes de sécurité. Fait que on n'avait pas grand chose. Fait qu'on est resté assis dans le pick-up.
Tu n'as pas fait une farce comme pour dire j'aime la poutine pareil.
Ah! J'aurais dû. Aye, on va rejoindre notre chroniqueur politique américaine et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, Valérie Beaudoin. Bon matin, Valérie.
Bonjour.
T'es une fan de politique américaine, mais quand il arrive des situations comme cette nuit, comment tu réagis quand tu vois ça arriver chez nos voisins du Sud?
Tu parles de l'effondrement du pont à Baltimore.
Exactement, le pont de Baltimore.
C'est épouvantable. Et moi, d'ailleurs, là, je fais une confession. Le plus jeune, j'avais extrêmement peur d'être sur un pont. Là. Ma plus grande phobie, c'était de me retrouver coincée dans ma voiture, tombée d'un pont. Fait que quand je vois ça, j'ai l'impression personnellement d'être affectée beaucoup par ça. Mais c'est terrible et j'ai hâte de voir ce que l'enquête va révéler. Mais de ce qu'on comprend, et je viens de voir une dépêche là, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, le bateau avait dit au port qu'ils avaient perdu justement pardonne-moi l'anglais, je sais pas si c'est un mot anglais ou français, l'élément de propulsion, et qu'il y avait ce danger de collision. Alors, c'est vraiment un problème mécanique. Ils ont appelé le port pour le mentionner, mais il était trop tard. Ils ont foncé dans ce pilier du pont et les images qui font le tour de la planète, ça donne froid dans le dos, je veux pas imaginer. Et imagine aussi les conséquences juste sur la ville de Baltimore. Tu sais, on a un pont ici qui s'effondre, là. En plus de la tragédie humaine, ça va être extrêmement difficile aussi pour juste de penser reconstruire le pont. Ça se fait pas en 2 minutes. Les gens qui doivent circuler, aller voir leur famille, travailler, tout ça. Donc, il y a des conséquences aussi sur le long terme avec tout ça.
Oui, mais Baltimore, peut-être, ils vont être capables. Il y a tellement d'alternatives en passant par l'extérieur de la ville plutôt que de passer au-dessus de l'eau. C'est une alternative qui rallonge un petit peu. Je suis allé voir la circulation il y a à peine quelques minutes. Puis c'était quand même, il y a la 695 qui fait le tour par en haut au lieu de celle qui passait sur ce pont. là, qui est achalandé, mais ça semblait circuler quand même correctement. Effectivement, mais donc, ça va dans la lignée, puis je me disais, parce que quand j'ai vu des TikTok encore récemment, là, justement, de bateaux de croisière, des fois arriver au port, puis pas être capable de s'arrêter, puis ça crée une collision majeure, mais souvent... Justement, les pilotes des navires le savent qu'ils ont perdu, par exemple, toute utilisation des moteurs pour faire marche arrière ou pour diriger le navire en soi. Ben, en avisant le port, j'espère que tout le système de communication, et j'ose espérer que oui, pour que on puisse fermer l'accès au pont, parce que d'après moi, il y a eu quand même un délai de quelques minutes avant qu'il y ait eu la collision entre le véhicule, le bateau, le navire et le pilier. Fait que j'espère qu'on a été capable de... Surtout qu'il y a un poste à payage d'un des deux côtés, là, pas des deux bords, c'est juste d'un côté, là, mais il y a un poste à payage. Alors si on a pu fermer ça là, puis fermer l'accès au véhicule à cet endroit-là, ben ça a peut-être sauvé des vies.
Oui, parce que cette personne qui manque toujours à l'appel, mais on peut imaginer si cette tragédie-là avait eu lieu en heure de pointe, par exemple à cette heure-ci à Baltimore, comment la tragédie aurait pu être plus importante, parce que il reste que c'était 1h30 du matin. Donc c'est vraiment, faut être malchanceux de se retrouver sur ce pont-là à cette heure-là. Mais on verra si oui, il y a des mesures qui vont être prises par la suite. Et je pense qu'il va y avoir plus de surveillance, parce que tu peux imaginer que les personnes pas bien intentionné, pourrait aussi regarder ça en se disant, ah, ben, on peut déstabiliser aussi une ville au complet et faire des morts de cette façon-là. Donc, je pense qu'au niveau de la sécurité, là, je te parle de sécurité nationale, de façon générale, on va garder un œil aussi sur les navires pour pas qu'il y ait des gens qui, je vais pas utiliser le mot s'inspire, mais je vais le faire, là, s'inspire un peu de cette tragédie-là pour autre chose.
Ben, restons dans la même lignée. Donc, des gens qui sont mal intentionnés. Est-ce que Donald Trump va dire que c'est de la faute à Joe Biden encore?
Ah ben c'est déjà fait là. Donald Trump Jr., son fils entre autres, a mis une vidéo avec une image de Pete Buttigieg, qui est le secrétaire au transport de Joe Biden, en disant, bon, tu vois là, ça va pas si bien comme tu le dis, tes infrastructures et tout ça. Alors on est déjà en mode attaque, mais je pense que c'est peut-être pas le temps de faire ça. On pourrait peut-être penser aux gens au lieu d'attaquer politiquement son adversaire là. Donc non, alors les attaques ont déjà commencé. Il est 8h40 le matin, c'est déjà fait.
Mais en même temps, on a pas le droit d'être surpris que la famille Trump agisse de cette façon-là. Tu sais, je le disais un peu à la blague, sachant très bien qu'elle allait trouver une tournure pour accuser les gens, les opposants à son élection.
Oui, oui, tout à fait. Ben, tout devient politique en campagne électorale et tout devient une façon d'attaquer son adversaire. Et je pense pas que si Don Jr., entre autres, prend pas vraiment un pas de recul avant de faire ces attaques-là. Ça fait partie de son lot quotidien d'attaquer ses adversaires comme ça.
On avait hâte à la journée d'hier pour savoir comment allait se dénouer cette impasse où la Cour a ordonné à Trump de verser quoi 450 millions de dollars comme caution, ce qu'il aurait dû déposer hier au plus tard. Mais là, il y avait encore des demandes faites devant les tribunaux d'appel et tout ça. Comment ça s'est soldé, cette histoire-là?
Oui, puis finalement, Donald Trump a eu un peu un cadeau, disons une vente à rabais pour sa caution, pour le montant qu'il voulait, devait déposer en garantie, parce que tu l'as dit, il devait normalement déposer près d'un demi-milliard de dollars dans ce dossier au civil où il a perdu sa cause, son dossier de fraude avec la Trump Organization. Et finalement, on a dit, on peut donner que... seulement, et je mets de gros guillemets, 175 millions de dollars. Alors, c'est ce qu'il doit déposer en garantie. Il a 10 jours pour le faire. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit ses biens, des comptes en banque qui peuvent être gelés aussi. Donc, c'est la façon de faire, de procéder si on n'est pas capable de garantir ce montant d'argent, même si le processus est en appel. Parce que Donald Trump porte en appel la décision qu'il a reconnue coupable à la base, mais malgré tout, la façon que ça fonctionne, tu dois quand même prouver que tu as l'argent si la condamnation tient et que la cour d'appel décide de ne pas renverser la première décision, un peu comme Donald Trump a dû aussi verser environ 90 millions en garantie dans un autre dossier au civil il y a quelques semaines. Alors, ça fait beaucoup d'argent en peu de temps pour le dossier de diffamation d'agression sexuelle de E. Jean Carroll, une ancienne journaliste qui l'aurait agressée à New York. Ben, en fait, on a reconnu qu'il y a eu agression et non viol dans ce dossier-là au civil. Donc, ça aussi, c'est un montant d'argent que Donald Trump a déversé.
Comment il a fait pour passer de 450 à 175 en braillant ou comment il a réussi à gagner son point?
Mais ses avocats ont dit devant les juges de la Cour d'appel que comme le processus est en appel aussi pour la décision, donc de donner ça, c'est immense si on pense qu'on peut changer l'issue de la décision. Et l'autre chose, et ça, je t'avoue que je n'ai jamais eu à verser de garantie d'un demi-milliard de dollars dans ma vie, ou je pense pas non plus avoir à le faire, mais les compagnies qui donnent cette garantie-là, c'est les compagnies d'assurance. Hein. C'est pas l'espèce de ce qu'on appelle en anglais un bond, pour dire que tu as bel et bien la liquidité de 500, on va dire 500 millions ici pour arrondir tout ça. Ils disent, les avocats, que les compagnies d'assurance refusent d'aller jusque-là parce que c'est un trop gros montant. L'autre chose, Donald Trump qui se dit très riche, qui dit qu'il est plusieurs fois milliardaire. Donc, je te dirais que c'est plus sur son image de dire que tu n'as pas de liquidité pour avoir 500 millions de dollars, que tu dois vendre des propriétés et tout ça. Donc, ça pouvait peut-être atteindre un petit peu son image d'homme extrêmement riche. Mais malgré tout, c'est quand même pas du change que tu as dans tes poches. Hein? Un demi-milliard de dollars, que tu sois riche ou non. Je pense qu'on va un petit peu plus loin que ça.
Exactement. Donc, ils ont su, ils ont tenté de l'affaiblir, mais finalement, encore une fois, il se sert de son statut de victime pour pouvoir amadouer les Américains et les rapatrier de son côté.
Et je vais aller plus loin que ça. Si on avait saisi ses biens... Imagine la scène. Il y a des gens, des autorités new-yorkaises qui sont, disons, plus démocrates que républicains, on s'entend, là, parce que les procureurs là-bas sont élus. Alors, c'est vraiment des élus démocrates, des procureurs démocrates. Ils se rendent pour aller saisir son penthouse, son avion, son terrain de golf. Juste cette image-là, à quel point ça peut alimenter ce statut justement de victime et de dire qu'ils veulent aller chercher son argent pour l'empêcher d'avoir une bonne course à la présidence. Alors tout ça, je pense même qu'il aurait pu s'en servir dans toute cette espèce de rhétorique de chasse aux sorcières et autres. Alors même si on avait saisi ses biens, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal à l'ego aussi parce que Donald Trump a toujours eu cette image d'homme qui a réussi, d'homme très riche. Mais je pense qu'il est assez habile pour utiliser ça pour un avantage politique.
Maintenant, toujours dans les problèmes concernant M. Trump, Stormy Daniels, qui est une pitoune.
Une
pitoune.
Une ancienne actrice porno.
Actrice porno.
Pour adultes.
Voilà. Qui a été quoi? La maîtresse de Trump. En tout cas, là, maintenant, il va l'affronter dans un procès criminel qui commence dans quoi? Dans deux semaines?
Oui, le 15 avril. En fait, ça devait débuter hier, normalement. Là, puis pour faire une histoire courte, on a reçu la Cour a reçu 100 000 nouveaux documents. Donc, on a dû avoir un délai pour que les deux parties puissent consulter les documents. Mais finalement, oui, ça débute le 15 avril avec la sélection des membres du jury. Et dans ce dossier-là, oui, Stormy Daniels est au cœur de l'histoire parce qu'elle dit qu'elle a eu une relation avec Donald Trump lorsqu'il était marié à Melania Trump. Et elle a eu, ça s'est prouvé, un versement de 130 000 $ pour ne pas qu'elle parle. Parce qu'on était en campagne électorale, parce que déjà là, Donald Trump était en 2016 attaqué par rapport à ses commentaires sur les femmes de façon générale. Il ne pensait pas que ça allait aider. Donc, on a payé 130 000 $. Et c'est pas ça le crime. C'est pas de payer pour acheter le silence de quelqu'un. C'est qu'on a caché, selon les procureurs, ce paiement-là dans les livres comptables, en disant que c'est des dépenses électorales ou des frais juridiques, des frais d'avocat. Alors, ça a été caché. Donc, on l'accuse de falsification de documents et de tout ce qui entoure la fraude autour de ça. C'est vraiment ça le crime. C'est pas d'avoir payé Stormy Daniels, c'est d'avoir caché comment on l'a payé. Encore une fois, c'est une erreur. S'il avait fait un chèque personnel de 130 000 $, il le donne à Stormy Daniels. On n'a pas de dossier devant la cour. On n'a absolument rien.
Mais encore une fois, donc, c'est pas à caractère sexuel, les accusations concernant cette femme-là. Mais c'est vraiment de la fraude dans le versement du montant de dédommagement pour acheter le silence.
Exactement.
C'est quand même encore une fois particulier.
Mais ça va être particulier aussi d'entendre Stormy Daniels qui doit témoigner dans ce procès-là. Alors elle va raconter sa relation avec Donald Trump, les communications qu'elle a eues avec Michael Cohen, qui est son ancien avocat, Donald Trump, son ancienne espèce d'homme de main, qui lui va aussi témoigner. Lui a fait de la prison pour ça parce qu'il a violé des lois électorales. Donc lui a déjà avoué son crime. Il va être témoin dans le dossier. Est-ce que c'est le procès au criminel qui va faire le plus mal à Donald Trump? Je pense pas, parce que justement, la nature du crime, c'est assez complexe. Là. C'est pas noir ou blanc. Là. C'est pas, par exemple, les documents à Mar-a-Lago que tu sais qu'il avait dans des boîtes dans sa salle de bain, puis un peu partout, puis qu'il avait pas le droit de le faire. C'est ça, c'est très concret pour les électeurs. Mais là, de dire que dans les documents, on n'a pas mis ça à la ligne prévue, puis qu'on a voulu cacher ça, j'ai l'impression que ça va pas d'impact tant que ça. Mais, et le mais est important, ça risque d'être, à moins d'un changement, peut-être le seul procès au criminel qui aura lieu et qui sera terminé avant l'élection de novembre. Donc ça, c'est quand même, je rappelle qu'il n'y a jamais eu des présidents dans l'histoire, ou d'anciens présidents, pardon, qui ont été accusés au criminel.
J'ai, en regardant les nouvelles internationales, honnêtement, je suis pas un peu heureux, mais là, j'ai un peu crainte, parce que quand tu vois Vladimir Poutine qui dit « L'Occident, si vous vous en mêlez, ça va être la Troisième Guerre mondiale », là, les Américains semblent s'abstenir de tout, s'abstiennent dans le vote à propos d'Israël. On n'a pas trop l'idée de quel bord ils veulent prendre vraiment pour défendre l'Ukraine face à la Russie. En Haïti, c'est le bordel. Comment les Américains se retrouvent sur le plan international alors que c'est pas parfait à l'intérieur des États-Unis? Est-ce qu'ils s'absentent des dossiers internationaux? Comment tu vois ça?
Non, je pense pas qu'ils s'absentent. Au contraire, là, ils sont vraiment impliqués. C'est plus que l'interne. Donc, les politiciens qui doivent voter les budgets pour aider militairement, par exemple, l'Ukraine ou Israël, ben on s'entend pas. Alors, c'est vraiment là, je te dirais, entre guillemets, le problème. Parce que l'administration Biden continue d'appuyer l'Ukraine, font pression pour qu'on vote pour des millions de dollars supplémentaires en aide militaire pour justement empêcher que Vladimir Poutine continue d'envahir l'Ukraine. Donc ça fait partie des plans. Au niveau d'Israël, seul le changement qu'il y a eu dans les derniers jours est quand même très, très important, parce qu'Israël, c'est l'allié de toujours des États-Unis. Ça, c'est vraiment clair. Et le ton a changé. Là, on demande un cessez-le-feu. Et devant l'ONU et le Conseil de sécurité, pour la première fois, les États-Unis se sont abstenus de voter. Normalement, ils imposent un veto. Donc, dès qu'ils votent contre un projet de résolution qui demandait ce cessez-le-feu-là et l'échange aussi d'otages, ça tombait. Là, pour la première fois, donc hier, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé la résolution passer. Mais la résolution, ça ne veut pas dire qu'Israël, demain matin, doit imposer un cessez-le-feu. L'ONU a juste un pouvoir politique d'envoyer un message. Mais ça reste Netanyahou, qui est à la tête d'Israël, qui décide si un cessez-le-feu ou non. C'est juste que ça refroidit les relations entre les deux pays. Et là, il y avait une délégation israélienne qui était supposée d'aller aux États-Unis. Puis finalement, ils ont annulé le voyage. Alors ça fait comme une espèce de point de rupture entre les deux pays. Mais ça veut pas dire qu'ils vont être des ennemis politiques, au contraire. Mais la pression politique de Biden de demander un cessez-le-feu pour la bande de Gaza avec la tragédie humaine qu'il y a là, vraiment été très, 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 très fort. Donc c'est pour ça le changement.
Ça m'impressionne toujours de voir les États-Unis faire du surplace ou même reculer. Je voyais que, je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours, que la Cour suprême des États-Unis doit revenir sur la décision de la pilule abortive.
Oui.
Donc, des opposants à l'avortement, là, ça c'est le cas Roe contre Wade, qui a fait tout, qui a ouvert ce débat-là. Et donc, on s'oppose à ce que cette pilule-là soit accessible aux Américaines, c'est ça?
Exactement. Et c'est aujourd'hui devant la Cour suprême qu'on entend les arguments de part et d'autre, parce que, et ça c'est particulier aux États-Unis, hein. C'est un pays tellement spécial, parce que tu peux magasiner ton juge. Il y a des groupes religieux anti-avortement qui là ont dit parfait, on a renversé la décision qui protégeait le droit d'avortement aux États-Unis, on va aller plus loin. On veut interdire la pilule abortive. Ils ont magasiné un juge au Texas qui lui avait des vues hyper conservatrices, qui avait déjà dit qu'il était contre la pilule abortive, et lui l'avait interdit carrément en disant que la FDA, donc l'équivalent de Santé Canada, avait pas eu raison de l'approuver, c'était trop dangereux. C'est trop dangereux pour la santé des femmes. C'est ça son argument, mais juste vous dire que la pilule abortive, selon les statistiques, est moins dangereuse que le Viagra. Mais le Viagra n'était pas ici devant le tribunal. Hein. On s'entend, là, on allait plus vers la pilule abortive. Ça, je ferme ma petite parenthèse et mon commentaire un peu éditorial.
Non, non, mais c'est parfait. Hein. J'imagine la face du juge, lui, qui doit être un très bon client de ça. Là.
Écoute, on le sait pas, mais on s'attaque pas à ça. On s'attaque seulement à la pilule abortive qui, je dois dire, a représenté 63 % des avortements dans la dernière année. C'est pas la pilule du lendemain. C'est vraiment une pilule au lieu d'avoir l'intervention médicale avec un médecin d'un avortement. C'est vraiment au tout début de la grossesse. Et là, il y a un juge de cour d'appel. Il y a des juges de cour d'appel qui ont dit, ben nous, on veut pas l'interdire, mais on va réduire l'accès. Ça veut dire que tu peux plus l'avoir en télémédecine. C'est plus difficile de l'avoir, par exemple, dans des pharmacies, des magasins de grande surface. Aussi, au niveau la prescription, là, tu dois avoir des rencontres avec le médecin, c'est plus compliqué. Tu pouvais l'avoir jusqu'à 10 semaines, là, tu vas l'avoir jusqu'à 7. Et c'est là-dessus que la Cour suprême doit se prononcer. Est-ce qu'on réduit l'accès? Est-ce qu'il y aurait un impact, encore une fois, sur les femmes, l'accès à ces médicaments, l'accès à des soins de santé? Et ça fait partie du combat beaucoup plus large d'empêcher l'avortement, mais éventuellement, et je veux pas faire mon espèce de prophète de malheur, mais il y a des gens, il y a des mouvements pour dire qu'on voudrait interdire aussi la contraception. Mm-hmm. On y va étape par étape.
Hey, là, c'est ça, là.
Est-ce que ça va se rendre là? Je ne pense pas, j'espère pas, mais il y a des moyens, on tente de faire ça, on tente même de rendre impossible d'envoyer, par exemple, des pilules entre États, qui, par exemple, un État qui légalise l'avortement, puis un État qui légalise pas.
Donc, mais la Cour suprême est beaucoup plus neutre ou il y a quand même des saveurs religieuses à l'intérieur des membres de celle-ci?
Ben, c'est sûr qu'ils ont leur propre, principe à eux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus conservateurs que libéraux dans le sens idéologique du terme. Ils ont quand même renversé Roe contre Wade il y a pas si longtemps. Par contre, ça va plus loin que ça. Si tu dis que pour des raisons idéologiques, tu peux, pardonne l'anglicisme, challenger un médicament, combien de personnes vont le faire pour d'autres raisons, pour d'autres médicaments? Tu sais, c'est ça aussi qui est en jeu, parce que la FDA, c'est comme si on disait à Santé Canada, mais finalement, tu sais pas vraiment faire ton travail, fait que des groupes de pression peuvent aller dire que tu aurais pas dû approuver ce médicament-là. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça, là. C'est un organisme qui, avec factuellement, va décider si un médicament est bon ou non. Après ça, tu peux ne pas être d'accord, ne pas le prendre, mais c'est pas à la justice de remettre en cause ça. Alors si eux ils disent mais la FDA a pas bien fait sa job, après ça est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui vont aussi être attaqués comme ça? Donc ça peut aller beaucoup plus loin que juste la pilule abortive. Alors c'est oui sur l'avortement, mais aussi plus largement sur les médicaments, sur les groupes de pression aux États-Unis.
Les incidences que ça peut avoir pour la suite. Donc ça débute aujourd'hui, on attend une décision au mois de juin pour
exactement. Donc après ça ils vont les juges écrire un rapport, prendre leur décision, et un peu comme c'était dans le cas justement de Roe contre Wade, on va avoir une décision avant la pause de l'été normalement, donc on verra. Mais les républicains, je te dirais, sur ce dossier-là, sont très silencieux, on les entend pas beaucoup parce qu'ils savent que politiquement, l'avortement déjà là, c'était pas payant. La pilule abortive qui est encore plus largement acceptée aux États-Unis, donc c'est pas quelque chose qui est contesté, ben on ne veut pas trop en parler pour ne pas se faire mal dans les prochaines élections.
Mais tu sais, faut jamais être... on n'est pas à une aberration proche provenant des Américains. Tu sais, je reviens à l'exemple que je disais avant de te présenter tantôt. La construction du nouveau pont à Détroit fait que la compagnie américaine qui est propriétaire du Ambassador Bridge, qui est un pont qui est là depuis 1930, si ma mémoire est bonne, eux, c'est une entreprise privée, le pont. Donc, le pont c'est un pont payant et la compagnie, c'est, je me souviens jamais, c'est Hudson ou Watson, là, la compagnie, la famille qui est propriétaire du pont a fait des milliards de dollars à travers les années avec ce pont-là. Et là, ils poursuivent le Canada parce que là, ils disent, ouais, mais là, vous nous enlevez de la business parce que les trucks, ils vont tous passer chez vous, puis ils passeront pas sur notre pont. Puis là, ça s'en va devant les tribunaux, là, parce que y a un vol de clientèle ou je sais pas exactement sur quel point ils se défendent, mais ils s'attaquent de part et d'autre, alors qu'on veut tout simplement mieux servir la population. Ça, c'est très particulier, puis c'est très américain dans la façon de voir les choses.
Ben, même les prisons privées aux États-Unis, où plus tu as de détenus, plus tu fais d'argent. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, là. Tu sais, ça, c'est assez particulier. On n'a pas ça.
Fait qu'ils bafouent. C'est comme ça que les détenus sont dans des conditions plus exécrables?
Ben oui, c'est pas des bonnes conditions parce que moins ça te coûte cher, plus tu fais d'argent. Puis, tu es aussi souvent de concert, peut-être, avec le shérif qui, lui, est en élection. Puis, la personne qui dirige d'autres prisons qui est aussi en élection. Là, tout, c'est des postes, t'es élu. Alors, des fois, plus tu remplis les prisons, plus ça donne de l'argent. Alors, les compagnies au privé, là, veulent recevoir des prisonniers, mais il y a plein d'endroits là que c'est super insalubre, que c'est vraiment dangereux, puis c'est souvent pour des crimes. Tu sais, aux États-Unis, les prisons sont pleines, par exemple, il y avait quelques années, là, je faisais prendre, je sais pas, avec un joint, tu pouvais avoir des années derrière les barreaux. Mm-hmm. C'était parce que justement, c'était une business. C'était pas parce que c'est tous des tueurs, là. On s'entend, des fois, c'est des petits crimes avec énormément de prison qui est associée à
c'est
ça.
C'est terrible. J'écoute la justice en direct, j'écoute toutes sortes d'émissions de débiles, moi, là. Et c'est souvent des peines, puis je fais un saut, là. Tu sais, il y a eu une agression, oui, là, ça peut être une altercation qui a fini avec des coups de poing sur la gueule, puis des fois, ça finit avec 30 mois de prison, j'en reviens pas. Des fois, il y a vraiment des excès qui sont marqués de ce côté-là, mais... D'ailleurs, en prison, tu sais, je me demandais dans ma réflexion un matin, parce qu'on en a parlé un petit peu, là, Julian Assange, qui finalement va aller en appel, donc qui sera pas extradé aux États-Unis prochainement, parce que il veut pas y aller. Hein, on s'attend à 175 ans de prison de son côté. Lui qui a révélé des documents secrets de l'armée américaine et de la protection des États-Unis. On pourrait peut-être aussi, et je me demande à quel point, puis le Canada et les États-Unis voudront pas briser leurs relations, mais vous savez qu'au Canada, on a adopté une réglementation, puis je dis pas que c'est à cause d'Alexandre Bissonnette, là, la tuerie de la mosquée, mais qu'une peine de prison équivalent à une peine de mort ne pouvait être appliquée.
Oui, c'est une peine inusitée, là.
Oui, puis on a créé un article autour de la charte canadienne de ce côté-là pour pas incarcérer quelqu'un l'équivalent d'une peine de mort.
Peine cruelle et inusitée.
C'est exactement, c'est ça le terme. Est-ce que on pourrait se servir de ce point-là pour refuser d'envoyer un criminel détenu au Canada aux États-Unis parce qu'il ferait face à une peine cruelle et inusitée?
Écoute, c'est une très bonne question. Je pense honnêtement qu'entre le Canada et les États-Unis, c'est un crime qui a été connu, un crime violent, par exemple, aux États-Unis. Dans les relations, ils n'auront pas vraiment le choix de l'extrader. Là, c'est un cas assez particulier, Julian Assange, parce que ça a été médiatisé partout. Il s'est caché, il voulait pas être extradé, justement. Mais là, on veut des garanties, justement. C'est ce que demande Londres, là, ce que demandent les Britanniques, d'avoir des garanties qu'il n'y aura pas de peine de mort, qu'il n'y aura pas... que, par exemple, on va pas, parce qu'il y a une autre nationalité, le juger différemment, qu'il va être protégé en vertu du premier amendement, donc qui est justement le droit de la liberté d'expression, tout ça. Alors, il y a des éléments où, oui, on demande des garanties dans ce cas-là. Alors, oui, peut-être qu'il pourrait avoir des garanties. Je sais pas jusqu'où on peut se rendre, mais même aux États-Unis, puis je fais une mini-parenthèse parce que tu m'as inspiré une petite nouvelle que j'ai vue il y a pas longtemps, entre les États démocrates et républicains, puis ça, c'est nouveau, là, c'est vraiment, on utilise la politique. Par exemple, quelqu'un qui a commis un crime à New York, un crime violent, là, qui a tué, dans ce cas-ci, c'était une femme dans un hôtel, et qui a commis d'autres crimes en Arizona, où il n'y a pas eu de meurtre, et qui doit normalement être extradé à New York pour pouvoir être jugé, eh bien, on refuse l'extradition en disant que les lois là-bas sont pas assez sévères.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.